m'installe. M'entendez bien comme ça? C'est bon? Avant de commencer, je vous propose déjà de prier, si cela vous va encore, pour remettre ce moment. Merci Seigneur pour ton amour, pour ce que tu nous donnes jour après jour. Et je te prie maintenant de nous donner ton esprit, de me délier la langue, de me donner des idées claires, et que tu puisses aussi nous ouvrir l'oreille pour ce que tu veux nous partager ce matin. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous offres. Amen. Je me suis dit qu'aujourd'hui je vais faire un truc un peu spécial. Je vais commencer d'abord par un témoignage, puis je vais vous proposer une lecture dans la Bible. Je vous propose cette adorable petite créature qui est une tortue. Elle s'appelle Joséphine, elle a 15 ans. Alors, précision, Joséphine ou Joseph, c'est un peu compliqué à savoir pour les tortues. Voilà. Et ça fait 15 ans que Jessica a cette tortue. Elle est chez nous, vous voyez le petit enclos qu'il y a en bas, qu'on lui a aménagé il y a un an. On n'est pas des très grands bricoleurs, mais on se débrouille quand même. Quelques petites photos, vous la voyez notamment dévorer une fraise en haut. Voilà. Une créature qu'on apprécie particulièrement, qui est très bruyante, contrairement à ce qu'on pense, et surtout aussi qui est très rapide, et qui a cette capacité de se planquer. Et le témoignage que je vais vous partager un jour, c'est ben, donc nous, on était au mariage de mon cousin. On laisse la tortue chez les parents de Jessica, qui nous téléphone au bout d'un moment en disant bah, « Oups, la tortue a disparu. » Alors je vais essayer de vous raconter cette histoire sans être trop pris par l'émotion, parce que forcément je l'ai écrite, tout se passait bien, et là je sens un peu les larmes monter. Mais je vais essayer de vous partager un peu cette enquête, façon Sherlock Holmes, où on se dit « Ok, la tortue est partie, on est avec Bolsheim, c'est pas non plus la grande campagne, en plus c'est dans un jardin, les jardins en ville, je pense que le jardin tient à peu près dans cette pièce ici, donc ça va. » Et donc, alors, je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière, normalement il y a une petite croix rouge en haut, il faudra peut-être baisser un tout petit peu la lumière sur le diapo, s'il te plaît. Merci. Juste cette lumière-là, si tu arrives à la couper. Puis recoupe tout, moi ça va, si je suis dans l'ombre, ça me bat. Donc c'est la petite flèche rouge que vous avez tout en haut. Voilà, je pense que la prochaine fois je mettrai une couleur un peu différente, c'est vrai qu'ici moi ça flash bien sur ma tablette, mais ça marche un peu moins là-bas. Et surtout, quand vous regardez bien, il y a des rues tout autour, donc on se dit, bon, ça va, on quadrille le périmètre, et on regarde où est-ce qu'elle est, a priori, elle ne devrait pas aller très loin. Donc on fait des fouilles, on va chez les voisins, on retourne le jardin, et les jours passent, et toujours pas de tortue. On l'a perdue le 11, et arrivé au 22, toujours pas. On se dit, bon, on va sortir la deuxième artillerie lourde, on fait des affiches, on va chez tous les voisins, on dit, bon, maintenant, essayez de retrouver notre tortue, attention, ça peut ressembler à une petite pierre, donc si on vous passe la tondeuse, faites attention de ce que vous trouvez. On fouille, et toujours pas de tortue. Alors forcément, l'émotion vient un peu de colère par rapport aux beaux-parents aussi, en disant, mais on leur avait dit qu'il fallait pas qu'ils la laissent seule dans le jardin. Nous-mêmes aussi, on se dit, bon, ok, peut-être qu'à notre place, on aurait peut-être eu aussi un moment d'inattention. Forcément, ce que je voulais dire dès le début, on essaie de prier suffisamment tôt. Dieu aide-nous à retrouver cette tortue. Et malgré tout, on ne la retrouve pas. Et le temps passe, et le problème, c'est qu'on est en été. Et nous, l'été est généralement assez bien chargé. Notamment, bah, on a des vacances de réservées. Et au bout d'un moment, bah, on va arriver au moment où on ne sera plus là. On sera parti loin, quelque part en France, et on n'aura plus du tout aucune prise sur ce qui va se passer. Là, jusqu'à présent, on était capable de faire des fouilles tous les deux jours du jardin, d'aller toquer chez les voisins. Bientôt, on sera dans les Alpes et on n'aura plus aucun moyen d'action. Donc, nous partons dans les Alpes avec les affiches laissées. On profite de ce magnifique paysage dont je vous offre quelques photos. On fait de la randonnée. Et forcément, malgré ces beaux paysages, on pense quand même à cette petite tortue qui est quelque part. On se dit, bon, bah, elle aussi a des vacances dans ce jardin. Et d'un coup, en plein milieu d'une randonnée, Jessica reçoit un coup d'appel, un coup de fil. Une des affiches a fait mouche et quelqu'un nous dit bah « Justement, on a retrouvé votre tortue. Oh, trop bien !» Alors, c'est pas nous directement, on a vu des passants qui l'ont trouvée et ils l'ont déposée à la SPA. Alors nous, on se pose la question « Mais où est-ce que vous l'avez trouvé, votre tortue ?» Et en fait, ça se voit bien, voilà, c'est la petite flèche, en rouge en bas, la flèche orange en bas. Finalement, c'est pas du tout là où on pensait qu'elle était. Elle a crapahuté un petit peu. Alors c'est pas très loin sur la carte, hein, c'est 100 mètres plus loin, néanmoins elle est quand même allée au-delà de ce que là, de là où on pensait que ça allait être. Et donc on téléphone à la SPA directement après, peut-être 20 minutes après, en disant « Ah, vous avez reçu une tortue, on sait que quelqu'un vous l'a déposée ». La SPA nous dit « Ah non, désolé, on n'a jamais reçu aucune tortue. » Donc on s'est dit « Super, on a enfin fini cette histoire. » Et en fait non, l'histoire ne fait que commencer. Nous, on est toujours bloqués loin, on ne peut pas aller vérifier si la SPA n'a pas fait n'importe quoi. Forcément, l'émotion revient. Oh, la SPA, si ça se trouve, ils ont mal rempli leur dossier, ils font pas attention, on leur confie des animaux et ils sont pas capables d'en faire attention. On se recalme un peu. Bon, Seigneur, tu gères tout. Voilà, on te laisse cette petite tortue. Et nous, on est toujours partis en vacances et on commence le camp Psalmodia. On arrive le vendredi pour installer notre camp. À partir du dimanche soir, c'est la première grande soirée. Une semaine complète d'ateliers, Jean-Denis vous en a parlé, et moi j'étais notamment très occupé parce que je gère à la fois notre campement, plus un atelier où j'avais plus d'une cinquantaine de jeunes, et forcément dans tout ça, on est pris dans les rouages, on pense quand même à cette petite tortue qui nous occupe l'esprit, et en rentrant en Alsace, donc quasiment 15 jours plus tard, on se dit, bon, quelqu'un nous a menti dans cette histoire, soit la SPA, soit les passants, si ça se trouve, n'ont pas déposé la tortue à la SPA, et on commence à imaginer le pire, parce qu'une tortue, c'est quand même le genre d'animal sur lequel il y a des trafics, et donc on se dit, si ça se trouve, quelqu'un l'a volée, l'a revendue, on la reverra plus jamais. Pire, si ça se trouve, elle est terminée en soupe quelque part. Bon, vous imaginez bien tout ce qu'on peut s'imaginer à ce moment-là. On repose des affiches en rentrant, le soir même, on se fait rappeler. Oh, super, cette fois-ci, c'est pas un passant qui a vu quelqu'un avoir la tortue, c'est directement la personne qui l'a ramassée, et qui a dit, bah oui, je l'ai bien amené à la SPA. Bon, donc ça veut dire que c'est la SPA qui nous a dit n'importe quoi. Allez, on rembobine, moi ça tombe bien, j'étais encore en congé à ce moment-là, donc le lendemain, je vais chez la SPA, et avec mes grands sabots, je me dis, bon, je vais leur expliquer un peu ce qui se passe là-dedans, et leur dire, rendez-nous notre tortue. Je me rends compte qu'à la SPA, c'est quand même beaucoup des bénévoles. Les pauvres qui devaient être deux ce jour-là pour gérer plein d'admissions, qui devaient gérer en plus la promenade des chiens, ils n'étaient pas beaucoup aidés. Je reprends un peu ma colère en me disant, bon, les pauvres, ils ont beaucoup de boulot, et en discutant un peu, je comprends qu'en fait, la tortue a été récupérée par quelqu'un, et juste que eux, bah, elle ne l'affichait plus dans leur dossier, et ils n'avaient donc pas pensé à nous dire comme quoi la tortue avait été récupérée. Donc elle a été perdue le 11, ramassée le 12, donnée à quelqu'un le 16. J'ai les coordonnées de la personne, et je me dis, super, on va pouvoir retrouver cette personne, je vais chez cette personne. La personne est aussi en vacances, parce que forcément, on est toujours au mois d'août. Voilà, donc vous imaginez un peu les aléas émotionnels. En plus, on s'est dit, si ça se trouve, la personne en question ne va peut-être pas nous la rendre, la tortue. Donc on imagine le pire. Et finalement, on tombe sur la personne, qui est une personne géniale, qui adore les tortues. Ils en ont plusieurs à la maison. Et en fait, eux-mêmes avaient perdu une tortue durant le même mois, un petit peu avant. Quand ils sont arrivés à la SPA, eux, débordés, leur ont donné la tortue et ils se sont rendus compte chez eux comme quoi ce n'était pas la bonne. Et ils se sont dit, bah, a priori, on ne va pas la redonner, la pauvre tortue va rester seule là-bas. Et en fait, ils l'ont gardée pendant plus d'un mois, ils l'ont bichonnée, ils lui ont donné de quoi manger, ils lui ont lustré la carapace avec quelque chose qu'on ne savait même pas, avec de l'huile d'amande douce, alors que c'était... voilà. Et ils nous la rendent, et donc l'histoire n'est pas totalement finie, parce que pour l'instant, elle est encore à leur nom sur les dossiers, mais elle est chez nous, on l'a récupérée, et même encore pour montrer que la joie va encore plus loin, ça c'est la photo de ce qu'eux nous ont donné par la suite, qu'on est toujours en contact, ils avaient des œufs qui étaient sous une couveuse, et le lendemain, il y a une tortue qui est née, et deux jours après, il y en a trois autres qui sont nées en plus. Donc eux ont peut-être perdu une tortue, mais ils ont récupéré quatre nouvelles qui viennent de naître, et nous, on a notre petite tortue chérie à la maison. Voilà. Avec tout ça, vous imaginez bien qu'il y a beaucoup d'émotions qui sont passées par ici, de l'étonnement, de la stupeur, de oh « oui, mais moi, j'aurais peut-être pas fait ça comme ça », et à ce moment-là, avoir un peu ces grands chevaux. Commencer à prier aussi et dire « Éternel, délivre-nous, et délivre-nous vite de cette histoire ». Des pleurs, un peu de colère, et à la fin, de la joie. Voilà, vous imaginez bien qu'on était bien occupés sur tout ça, et donc ça s'est terminé très, très récemment, ça fait moins d'une semaine qu'on a de nouveau notre tortue à la maison, et je me suis dit, comment est-ce que je vais pouvoir utiliser cette situation pour partager quelque chose aujourd'hui? Quel texte j'aurais à cœur qui puisse illustrer tout ça? Et j'ai eu la résurrection de Lazare. Alors, précision avant que je commence, je ne vais pas parler de la résurrection de la tortue, c'est pas mon but ici. Mais avec tous ces sauts d'humeur, je me suis dit que les personnages de ce récit ont dû aussi beaucoup avoir de sauts d'émotion, et j'aimerais vous en parler ce matin. Je vais commencer par lire donc dans le livre de Jean. On est au chapitre 11 et je vais lire les versets 1 à 44. Vu que c'est long et que j'ai déjà beaucoup parlé, je vais sauter quelques étapes pour me concentrer sur ce que j'aimerais vous partager. Donc Jean, chapitre 11, au verset 1. La mort d'un ami de Jésus. Dans le village de Béthanie vivaient deux sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Marie était cette femme qui, après avoir répandu une huile parfumée sur les pieds du Seigneur, les lui avait essuyés avec ses cheveux. Lazare, son frère, tomba malade. Les deux sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire « Seigneur, ton ami est malade ». Quand Jésus apprit la nouvelle, il dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. » Or Jésus était très attaché à Marthe et à sa sœur Lazare. Après avoir appris qu'il était malade, il resta encore deux jours à l'endroit où il se trouvait. Puis il dit à ses disciples, « Retournons en Judée. » Je saute au verset 14. « Alors il leur dit clairement, « Lazare est mort, et je suis heureux à cause de vous, de ne pas avoir été là-bas à ce moment-là, car cela contribuera à votre foi. Mais maintenant, allons auprès de lui. » Je saute au verset 17. À son arrivée, Jésus apprit que l'on avait enseveli Lazare depuis 4 jours déjà. Béthanie était à moins de 3 kilomètres de Jérusalem. Aussi beaucoup de gens étaient-ils venus chez Marthe et Marie pour leur présenter leurs condoléances à l'occasion de la mort de leur frère. La résurrection et la vie, verset 20. Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à son rencontre. Marie, elle, resta à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » « Ton frère ressuscitera, » lui dit Jésus. « Je sais bien, » répondit Marthe, « qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection. » « Moi, je suis la résurrection et la vie, » lui dit Jésus. « Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?»« Oui, Seigneur, » lui répondit-elle. « Je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » Là-dessus, elle partit appeler sa sœur Marie. Et, l'ayant prise à part, elle lui dit « Le Maître est là, et il te demande. » À cette nouvelle, Marie se leva précipitamment et courut vers Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village. Il était resté à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Ceux qui se trouvaient dans la maison avec Marie, pour la consoler, la virent se lever brusquement et sortir. Ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie parvint à l'endroit où était Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. « Où l'avez-vous enterré ? » demanda-t-il. « Viens, Seigneur, » lui répondirent-ils, « tu verras. » Jésus pleura. Alors tous dirent, « Vous voyez comme il l'aimait. » Quelques-uns remarquaient, « Il a bien rendu la vue à un aveugle. N'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure ?» La victoire sur la mort. Bientôt fini. La victoire sur la mort, au verset 38. Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. « Enlevez la pierre, » dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, dit alors, « Seigneur, il doit déjà sentir, cela fait 4 jours qu'il est là. » Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On ôta donc la pierre. Alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit, « Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, Mais je parle ainsi, si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Cela dit, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors de là !» Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin, le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, « Déliez-le de ses bandes et laissez-le aller. » Si je reprends le début de ce passage, un messager vient chercher Jésus. Lazare est malade et ses deux sœurs ont un bon réflexe, se dire « on connaît quelqu'un qui s'appelle Jésus, apparemment on le connaît bien parce que le texte dit que c'était son ami » et ils se disent « allons chercher Jésus à l'aide, lui il trouvera une solution ». Et on voit que Jésus, lui, il est touché par cette situation, parce qu'on sait que c'est son ami. Le texte le dit à deux reprises, au verset 3, « Seigneur, ton ami est malade », et aussi au verset 5, « Or Jésus était très attaché à Marthe et à sa sœur et à Lazare ». Alors, j'ai essayé de récupérer sur une carte où est-ce qu'il était à ce moment-là. Le texte dit, alors déjà je vous ai mis une carte dézoomée pour que vous puissiez voir un peu, ça se situe un peu sur les bords du Jourdain et à côté de Jérusalem. Si je zoome un petit peu, le texte juste avant disait que Jésus s'était retrouvé là où Jean-Baptiste faisait ses baptêmes. Lui, il était là en train de parler, d'enseigner. Et eux sont à Béthanie. Ça se situe environ une trentaine de kilomètres près de Jérusalem. 30 kilomètres. J'ai estimé après que ça fait 10 heures de marche. On pourrait se dire que si maintenant on est venu tôt là, le matin, le soir il y est. Si on vient en milieu de journée, le lendemain, il est présent chez ses amis. Et en fait, pas du tout. Quand on lit le texte, comme je vous l'ai lu avant, après avoir appris qu'il était malade, il resta encore deux jours à l'endroit où il se trouvait. Puis il dit à ses disciples, « Retournons en Judée. » C'est bizarre, ton ami est malade, il attend encore deux jours. C'est un peu comme si maintenant, vous téléphonez chez le dentiste, « Bonjour, c'est pour prendre rendez-vous. »« Ah oui, très bien, j'ai un rendez-vous dans 3 semaines. » Mais c'est maintenant que j'ai mal, c'est pas dans 3 semaines. Lorsque vous connaissez bien cette histoire-là. Et là, c'est pareil. Marthe et Marie envoient un messager. Et en deux jours, le messager, il a même le temps de revenir, de dire oui, Jésus est sur le point d'arriver. Et il vient toujours pas. Et il pourrait même envoyer un deuxième messager pour savoir alors où est-ce qu'il est. Il n'a pas bougé. Et j'imagine Marthe et Marie qui sont là en train de ruminer. Hein, mais où est-ce qu'il est? Quand est-ce qu'il arrive? Qu'est-ce qu'il fait? Et à une période où leur frère est malade, et vous connaissez la suite du texte, à son arrivée, quand Jésus décide enfin de venir, ça fait déjà 4 jours que Lazare est mort. Alors si on recalcule aussi les 4 jours, on ne sait pas combien de temps Jésus prend sur le trajet, peut-être qu'il est rapide, peut-être qu'il est plus lent, mais il faudrait vraiment qu'il parte vraiment très rapidement, juste après que le message lui ait été délivré, pour pouvoir vraiment arriver avant que Lazare meure. En effet, il y a 2 jours où il attend, donc finalement 4 jours, il y a encore 2 jours de battement, s'il n'a qu'un seul jour de trajet, il aurait pu venir un jour avant. Le texte dit 4 jours aussi, c'est un point intéressant, parce qu'il y a une tradition, pas toujours admise chez les Juifs, mais une tradition de 3 jours, où quand quelqu'un meurt, l'esprit, l'âme reste autour du corps, dans l'espoir de pouvoir revenir à la vie. Et si certains juifs avaient eu cette croyance à ce moment-là, en se disant « Ok, il vient de décéder, il y a peut-être 3 jours comme ça, un peu comme si maintenant on était à la fin d'un contrat en disant « On peut toujours revenir en arrière », là, ici, les 3 jours sont largement passés, ça fait 4 jours, dans la tête de tout le monde, c'est fini, il n'y a plus aucun espoir. C'est vraiment « On ne peut plus rien faire, les 3 jours sont passés ». Et on comprend alors avec ce recul pourquoi est-ce que Jésus est accueilli avec un mélange de foi et de reproche. Quand Marthe et Marie l'accueillent, elles lui disent « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort ». On peut le comprendre de deux manières. Si tu avais été là, tu aurais pu le faire. Mais aussi dans l'autre sens, tu n'as pas été là, donc tu ne l'as pas fait. Et d'autres personnes le disent au verset 37. « Il a bien rendu la vue à un aveugle ». N'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure? Et donc on voit cette dualité entre on croit toujours en Dieu, mais il n'était pas là. Et comme je vous ai dit, ce texte, je sens qu'il est plein d'émotions, et moi je le lis en tout cas comme cela, et je voulais essayer de vous partager versions différentes de personnages qui ont vécu cette situation. Déjà, on a Marthe, qui, elle, dès qu'entend que Jésus est enfin là, elle court à sa rencontre. Donc c'est ce qui est relaté des versets 20 à 27. Et donc, elle lui dit, comme je l'ai dit avant, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » Elle court auprès de lui, lui exprime son chagrin, et ils ont un petit échange, comme je vous l'ai lu, au sujet de la résurrection. « Oui, je crois encore qu'il va ressusciter à la fin. » Et Jésus la questionne un peu en disant « Est-ce que tu es vraiment sûr qu'il va ressusciter ?» Et moi, je te dis même qu'il va ressusciter bien plus vite quand on lit entre les mots. Et elle confirme « Oui, je crois que tu es le Messie. » Il y a une deuxième personne ici qui, elle aussi, intervient auprès de Jésus et qui a des sentiments bien plus prononcés, pas par des mots, mais plutôt par des actions. Ça va plutôt être Marie qui, elle, quand elle apprend que Jésus est à la porte du village, elle ne se déplace pas. Elle continue de pleurer, elle reste avec ceux qui étaient venus pour la consoler. Et le texte ne précise pas, mais j'imagine qu'elle est peut-être trop triste, qu'elle est sans espoir, qu'elle est peut-être un peu en colère, et qu'elle a trop d'émotions pour pouvoir venir et transmettre quelque chose à Dieu, et lui transmettre quelque chose à Jésus, et lui partager ses sentiments. Mais quand Marthe revient et lui dit « Jésus t'appelle », il est toujours à l'entrée du village, là elle accourt. Elle va vers lui, et ce qui est intéressant dans la position, c'est celle de Jésus. Il est toujours à l'entrée du village, il n'est pas entré, il attend que Marie vienne à elle pour pouvoir continuer cette histoire. Jésus aurait très bien pu rentrer, ressusciter Lazare directement, et ensuite aller voir chez Marie en disant « C'est bon, ton frère est ressuscité, tu peux désormais te réjouir ». Lui, il fait dans le sens inverse, il attend d'abord à ce qu'on vienne à lui. À ce moment-là, on peut lui exprimer nos émotions, notre colère, notre tristesse. Il la console et seulement ensuite, il avance. C'est aussi parce que Jésus, c'est une personne qui est là, pas juste pour faire des miracles, mais pour nouer des relations avec nous. Et il y a une troisième personne aussi ici qui exprime ses émotions, c'est Jésus. On a le verset ici le plus court de la Bible, « Jésus pleura ». C'est notamment un verset pour nous dire que si Dieu est venu sur terre, c'est pas juste pour faire des miracles, mais c'est aussi pour vivre nos émotions, nous comprendre et partager notre deuil. On l'a redit encore avant aussi dans le chant que nous avons chanté, si un membre souffre, tous souffrent ensemble, Jésus ici l'exprime aussi. Même si lui, c'est le corps du Christ en entier, il aurait très bien pu passer à la suite, mais non, il prend le temps d'exprimer ses émotions, le temps de discuter avec ses amis, avant d'aller plus loin. Et on arrive enfin à la fin de ce récit, la résurrection de Lazare, où d'abord il y a quelques doutes devant le tombeau. On peut le lire quand il demande d'ouvrir la pierre, Marthe répond « Mais Seigneur, il doit déjà sentir. » Sous-entendu, on ne peut plus trop rien faire, et je ne suis pas sûr que j'ai envie d'ouvrir ce tombeau et de découvrir ce qu'il y a dedans. Et Jésus lui redemande à ce moment-là « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire. » Et à ce moment-là, Jésus, qui aurait pu faire ce miracle en tout petit, caché, le montre publiquement, et il montre aussi sa proximité avec Dieu dans ce moment-là, où si je relis sa prière, « Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. Lazare, sors de là. » Il le fait publiquement, et j'imagine que là, à ce moment-là, la joie arrive quand tout le monde voit Lazare sortir, mais il y a la joie de retrouver un ami, il y a aussi cette joie de voir son sauveur en action, voir cette délivrance, et ce regain de foi, parce que je pense désormais que Marthe et Marie auront toujours de temps en temps des émotions, auront toujours des craintes, des pleurs, mais désormais, elles feront confiance à Jésus, et ça, quelle que soit la situation. Si je résume ce qui se passe après, il y a différentes personnes qui vont changer d'attitude. Déjà d'une part, ce miracle annonce la mort et la résurrection de Jésus. Il y a un passage que je ne vous ai pas lu qui est juste après, des versets 45 à 57, où les pharisiens désormais complotent et disent « Bon, ce Jésus, s'il continue à faire vraiment trop de vagues, il faut qu'on fasse quelque chose, parce que s'il fait trop de vagues, les Romains vont commencer à faire des persécutions, il faudrait mieux que ce Jésus meure à la place que tout le peuple souffre. » C'est étrangement ironique, sachant que c'est exactement le plan de Dieu, faire en sorte qu'un seul souffre à notre place et que Jésus prenne tous nos poids, tous nos péchés. Et ça, c'est juste avant le passage, enfin, c'est ce passage juste avant son entrée triomphante à Jérusalem qui déclenche toute la série d'événements où il va se faire arrêter par la suite, puis crucifié, puis revenir à la vie. Et ses disciples, quand on va leur dire « Oui, Jésus est ressuscité », peut-être qu'ils ont encore des doutes, mais ils ont déjà vu une résurrection à l'œuvre, et je pense que là, désormais, c'est peut-être quelque chose qui a pu les booster dans leur foi. Mais il y a aussi Marie, ici, qui, elle, avait exprimé sa tristesse, qui avait eu du mal à poser des mots sur ce qu'elle avait, et le texte, comme dit, est assez court sur ce qu'elle raconte, parce que majoritairement, dans le texte, elle pleure. Bah, le passage juste après, qui est dans Jean 12, c'est elle qui vient pour enduire les pieds de Jésus d'un parfum très cher et de lui essuyer ses pieds avec ses cheveux. Un mélange entre un signe de reconnaissance, mais aussi de soumission, pour montrer finalement à quel point elle aime Jésus. La note aussi que j'avais dans ma Bible disait que essuyer quelque chose avec les cheveux, c'est quelque chose que certains faisaient dans les cheveux de leurs esclaves. Ici, Marie vient presque comme son esclave en disant « Seigneur, je te remercie pour ce que tu as fait, et désormais je te croirai et je t'obéirai. » Je vais terminer ce partage-là en disant que finalement, tout ce passage que je vous ai lu, moi je l'ai trouvé très touchant par rapport à ce que nous avons vécu, avec des sauts d'émotion, des sauts d'humeur, de la colère, de la tristesse, de la joie à la fin. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux en tirer de ce passage-là ? Parce que finalement, on a demandé de l'aide à Dieu, parfois on se demandait où est-ce qu'il était présent, et à la fin, on a vu que finalement, Dieu agit, mais il agit en son temps, en patience. Et ce que nous, on peut juste faire, surtout, c'est changer notre attitude. Finalement, si je reprends un peu toutes les images que je vous ai mises ici, c'est un peu comme dans la BD Les Schtroumpfs. Quand il y a un problème, il faut aller voir le grand Schtroumpf, lui expliquer ce qui ne va pas, garder confiance sur le fait que lui, il sait tout et qu'il connaît la solution. Et que sa solution, souvent, c'est d'envoyer le Schtroumpf costaud qui va venir nous délivrer. Ici, si je l'image un peu par des BD, c'est la même chose. Gardons cette attitude où on exprime nos besoins à Dieu, qu'on ait le réflexe dans toute situation d'appeler Jésus à l'aide, qu'on garde confiance en fait que lui, il agira, et que parfois ça met du temps, et qu'à ce moment-là, on doit garder confiance pendant qu'on l'attend. Il faut aussi oser lui exprimer ce qu'on ressent, parce que lui sait ce que c'est nos émotions, il les a vécues lui aussi, et il sait que plus cette situation peut durer, plus nos émotions s'expriment, plus on peut avoir de la tristesse, de la colère, mais que si on lui exprime, lui, il peut nous les partager, et nous donner les clés pour pouvoir avancer. Et à la fin, n'oublions pas de lui dire merci, parce qu'il trouvera des solutions pour nous, et même si nos solutions, parfois, ne sont pas toujours très simples, pas toujours aussi simples plutôt que ce que nous aurions voulu, sa solution, elle marche. Dans notre cas, on aurait bien voulu que notre tortue, on la retrouve le lendemain qu'on l'ait perdue, mais le fait qu'on ait tout ce temps d'attente, ça nous a quand même permis d'avoir des vacances qui soient agréables, de passer du temps avec des amis, même à Jessica de faire un atelier à Gagnères, alors qu'elle n'avait rien de prévu, et que j'imagine que si on avait retrouvé notre tortue, peut-être même des chances qu'on soit revenu en Alsace pour la retrouver avant de revenir à Gagnères, ça aurait peut-être pourri un peu nos vacances, mais Dieu a pourvu à tout. N'oublions pas de lui dire merci aussi. Donc dans le texte pour Marthe, comme vous connaissez le passage, c'est surtout par son service qu'elle le rendait. Elle servait à table, elle était là auprès de... Dans le passage juste après, en Jean 12, il est dit qu'elle fait le service lors d'une petite fête. Pour Lazare, c'était probablement le temps qu'il pouvait passer avec Jésus, même si le texte ne dit pas trop ce qu'il faisait avec lui. On disait juste que le texte dit juste dans Jean 12 qu'il était assis auprès de Jésus. Et pour Marie, elle a donné un parfum d'une grande valeur, un cadeau pour exprimer son amour. Moi, j'ai essayé de le faire ce matin en vous partageant cette histoire et, dire que Dieu est grand. Je vais essayer quelque chose sur la fin. On a chanté le corps du Christ avant, et il y a un chant que j'aime beaucoup, qui dit que Dieu est toujours le même. Et je vous propose juste de prendre cette strophe, la troisième strophe, ainsi que le refrain, qui dit « Les gens pensaient que tu arrivais trop tard. Au tombeau, on l'avait déjà mis. Tu as dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Tu l'as appelé, et Lazare est sorti. » Et nous déclarons que tu n'as pas changé. Hier, aujourd'hui et pour l'éternité, notre Dieu est toujours le même. Sa puissance ne connaît pas le déclin. Notre Dieu est toujours le même. Dans l'impossible, il trace un chemin. Amen. Je vais terminer par prier. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous, pour Jessica et moi, cette tortue, mais ce que tu as fait aussi durant ces vacances, pour tous ceux qui en ont eu, pour tous ces camps. Et je veux te remercier parce que peu importe nos situations, tu es présent, tu agis pour nous. Et je te remercie parce que tu es une oreille, qu'on puisse venir auprès de toi pour nous décharger, nous dire nos soucis, nous dire nos craintes et nos peurs. Et je te remercie parce que tu nous accueilleras toujours les bras ouverts. Amen.